Chapitre 2. Les deux frères. Comme l'avait dit dans un doute plein de pressentiments la belle Rosa, pendant que Jean de Huit montait l'escalier de pierre aboutissant à la prison de son frère Corneille, les bourgeois faisaient de leur mieux pour éloigner la troupe de Tilly qui les gênait. Ce que voyant, le peuple, qui appréciait les bonnes intentions de sa milice, criait à tue-tête « Vive les bourgeois !» Quant à Monsieur de Tilly, aussi prudent que ferme, il parlementait avec cette compagnie bourgeoise sous les pistolets apprêtés de son escadron, lui expliquant de son mieux que la consigne donnée par les États lui enjoignait de garder, avec trois compagnies, la place de la prison et ses alentours. « Pourquoi ces ordres? Pourquoi garder la prison ?» criaient les orangistes. « Ah !» répondait Monsieur de Tilly, « voilà que vous m'en demandez tout de suite plus que je ne peux vous dire. On m'a dit « gardez ». Je garde. Vous qui êtes presque des militaires, messieurs, vous devez savoir qu'une consigne ne se discute pas. Mais on vous a donné cet ordre pour que les traîtres puissent sortir de la ville.
Cela pourrait bien être, puisque les traîtres sont condamnés au bannissement, répondait Tilly.
Mais qui a donné cet ordre?
Les États, pardieu.
Les États trahissent.
Ah, quant à cela, je n'en sais rien.
Et vous trahissez vous-même?
Moi?
Oui, vous.
Ah ça, entendons-nous, messieurs les bourgeois, qui trahirais-je? Les États? Je ne peux pas les trahir, puisque, étant à leur solde, j'exécute ponctuellement leurs consignes. Et là-dessus, comme le comte avait si parfaitement raison qu'il était impossible de discuter sa réponse, les clameurs et les menaces redoublèrent. Clameurs et menaces effroyables, auxquelles le comte répondait avec toute l'urbanité possible.
Mais, messieurs les bourgeois, par grâce, désarmez donc vos mousquets. Il en peut partir un par accident, et si le coup blessait un de mes cavaliers, nous vous jetterions 200 hommes par terre, ce dont nous serions bien fâchés. Mais vous plus encore, attendu que ce n'est ni dans vos intentions, ni dans les miennes.
Si vous faisiez cela, criaient les bourgeois, à notre tour nous ferions feu sur vous.
Oui, mais quand en faisant feu sur nous, vous nous tueriez tous depuis le premier jusqu'au dernier, ceux que nous aurons tués, nous, n'en seraient pas moins morts.
Cédez-nous donc la place alors, et vous ferez acte de bon citoyen.
D'abord, je ne suis pas citoyen, dit-il, je suis officier, ce qui est bien différent. Et puis, je ne suis pas hollandais, je suis français, ce qui est plus différent encore. Je ne connais donc que les États qui me paient. Apportez-moi de la part des États l'ordre de céder la place, je fais demi-tour à l'instant même, attendu que je m'ennuie énormément ici.
Oui, oui, crièrent 100 voix qui se multiplièrent à l'instant par 500 autres. Allons à la maison de ville, allons trouver les députés, allons, allons.
C'est cela, murmura Tilly en regardant s'éloigner les plus furieux. Allez demander une lâcheté à la maison de ville et vous verrez si on vous l'accorde. Allez, mes amis, allez. Le digne officier comptait sur l'honneur des magistrats qui, de leur côté, comptaient sur son honneur de soldat à lui.
Dis donc, capitaine, fit à l'oreille du comte son premier lieutenant, que les députés refusent à ces enragés que voici ce qu'ils demandent, mais qu'ils nous envoient, nous, un peu de renfort. Cela ne fera pas de mal, je crois.
Cependant, Jean de Huit, que nous avons quitté, montant l'escalier de pierre, après son entretien avec le geôlier Griffus et sa fille Rosa, était arrivé à la porte de la chambre où gisait sur un matelas son frère Corneille, auquel le fiscal avait, comme nous l'avons dit, fait appliquer la torture préparatoire. L'arrêt de bannissement était venu, qui avait rendu inutile l'application de la torture extraordinaire. Corneille, étendu sur son lit, les poignets brisés, les doigts brisés, n'ayant rien avoué d'un crime qu'il n'avait pas commis, venait de respirer enfin après 3 jours de souffrance en apprenant que les juges, dont il attendait la mort, avaient bien voulu ne le condamner qu'au bannissement. Corps énergique, âme invincible, il eût bien désappointé ses ennemis si ceux-ci eussent pu, dans les profondeurs sombres de la chambre du Buitenhof, voir luire sur son pâle visage le sourire du martyr qui oublie la fange de la terre depuis qu'il a entrevu les splendeurs du ciel. Le ruyard avait, par la puissance de sa volonté, plutôt que par un secours réel, recouvré toutes ses forces, et il calculait combien de temps encore les formalités de la justice le retiendraient en prison. C'était juste à ce moment que les clameurs de la milice bourgeoise, mêlées à celles du peuple, s'élevaient contre les deux frères et menaçaient le capitaine Tilly, qui leur servait de rempart. Ce bruit, qui venait se briser comme une marée montante au pied des murailles de la prison, parvint jusqu'aux prisonniers. Mais si menaçant que fût ce bruit, Corneille négligea de s'enquérir ou ne prit pas la peine de se lever pour regarder par la fenêtre étroite et treillissée de fer qui laissait arriver la lumière et les murmures du dehors. Il était si bien engourdi dans la continuité de son mal que ce mal était devenu presque une habitude. Enfin, il sentait avec tant de délices son âme et sa raison si près de se dégager des embarras corporels qu'il lui semblait déjà que cette âme et cette raison, échappées à la matière, planaient au-dessus d'elle comme flotte au-dessus d'un foyer presque éteint la flamme qui le quitte pour monter au ciel. Il pensait aussi à son frère. Sans doute c'était son approche qui, par les mystères inconnus que le magnétisme a découverts depuis, se faisait sentir aussi. Au moment même où Jean était si présent à la pensée de Corneille que Corneille murmurait presque son nom, la porte s'ouvrit, Jean entra, et d'un pas empressé vint au lit du prisonnier qui tendit ses bras meurtris et ses mains enveloppées de linge vers ce glorieux frère qu'il avait réussi à dépasser non pas dans les services rendus au pays, mais dans la haine que lui portaient les Hollandais. Jean baisa tendrement son frère sur le front et reposa doucement sur le matelas ses mains malades. « Corneille, mon pauvre frère, dit-il, vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas ?»«
Je ne souffre plus, mon frère, puisque je vous vois. »«
Oh, mon pauvre Corneille, alors, à votre défaut, c'est moi qui souffre de vous voir ainsi, je vous en réponds. »«
Aussi ai-je plus pensé à vous qu'à moi-même, et tandis qu'il me torturait, je n'ai songé à me plaindre qu'une fois pour dire « Pauvre frère, mais te voilà, oublions tout. » Tu viens me chercher, n'est-ce pas ?
Oui.
Je suis guéri. Aidez-moi à me lever, mon frère, et vous verrez comme je marche bien.
Vous n'aurez pas longtemps à marcher, mon ami, car j'ai mon carrosse au vivier, derrière les pistolets de Tilly.
Les pistolets de Tilly ? Pourquoi donc sont-ils au vivier ?
Ah ! C'est que l'on suppose, dit le grand pensionnaire, avec ce sourire de physionomie triste qui lui était habituel, que les gens de La Haye voudront vous voir partir, et l'on craint un peu de tumulte.
« Du tumulte ? » reprit Corneille en fixant son regard sur son frère embarrassé. « Du tumulte ? » ?»«
Oui, Corneille. »«
Alors c'est cela que j'entendais tout à l'heure, » fit le prisonnier, comme se parlant à lui-même. «
Puis revenons à son frère, et il y a du monde sur le Buitenhof, n'est-ce pas » dit-il.
« Oui, mon frère. »«
Mais alors, pour venir ici ?»«
Eh bien ? » ?»«
Comment vous a-t-on laissé passer ?»«
Ben, vous savez bien que nous ne sommes guère aimés, Corneille, » fit le grand pensionnaire avec une amertume mélancolique. « J'ai pris par les rues écartées. »
« Vous êtes caché, Jean ? » ?»«
J'avais dessein d'arriver jusqu'à vous, sans perdre de temps, et j'ai fait ce que l'on fait en politique et en mer quand on a le vent contre soi. J'ai louvoyé. »
En ce moment, le bruit monta plus furieux de la place de la prison. Tilly dialoguait avec la garde bourgeoise.
« Oh, fit Corneille, vous êtes un bien grand pilote, Jean, et je ne sais si vous tirerez votre frère du Buitenhof dans cette houle et sur ces brisants populaires, ou si heureusement que vous avez conduit la flotte de Tromp à Anvers au milieu des bas-fonds de l'Escaut.
« Avec l'aide de Dieu, Corneille, nous y tâcherons du moins, répondit Jean, mais d'abord un mot.
Dites. »
Les clameurs montèrent de nouveau.
« Oh ! » continua Corneille, comme ces gens sont en colère, est-ce contre vous ? Est-ce contre moi ?
Je crois que c'est contre nous deux, Corneille.
« Je vous disais donc, mon frère, que ce que les orangistes nous reprochent au milieu de leur sotte calomnie, c'est d'avoir négocié avec la France. »«
Les nier. »«
Oui, mais ils nous le reprochent. »«
Mais si ces négociations eussent réussi, elles leur eussent épargné les défaites de Rèze, d'Orsay, de Wesel et de Rheinberg. Elles leur eussent évité le passage du Rhin, et la Hollande pourrait se croire encore invincible au milieu de ses marais et de ses canaux. »
« Tout cela est vrai, mon frère, mais ce qui est d'une vérité plus absolue encore, c'est que si l'on trouvait en ce moment notre correspondance avec M. de Louvois, si bon pilote que je sois, je ne sauverais point l'esquif si frêle qui va porter les 2-8 et leur fortune hors de la Hollande. Cette correspondance qui prouverait à des gens honnêtes combien j'aime mon pays et quel sacrifice j'offrais de faire personnellement pour sa liberté, pour sa gloire, cette correspondance nous perdrait. » auprès des orangistes, nos vainqueurs. Aussi, cher Corneille, j'aime à croire que vous l'avez brûlé avant de quitter Dordrecht pour venir me rejoindre à La Haye.
Mon frère, répondit Corneille, votre correspondance avec M. de Louvois prouve que vous avez été, dans les derniers temps, le plus grand, le plus généreux, le plus habile citoyen de cette province unie. J'aime la gloire de mon pays, j'aime votre gloire surtout, mon frère, et je me suis bien gardé de brûler cette correspondance.
« Alors, nous sommes perdus pour cette vie terrestre, » dit tranquillement l'ex-grand pensionnaire en s'approchant de la fenêtre.
« Non, bien au contraire, Jean, et nous aurons à la fois le salut du corps et la résurrection de la popularité. »
« Qu'avez-vous donc fait de ces lettres alors ?»«
Je les ai confiées à Cornelius van Baarle, mon filleul, que vous connaissez et qui demeure à Dordrecht. »
« Oh, le pauvre garçon, ce cher et naïf enfant,
ce savant qui, chose rare, sait tant de choses et ne pense qu'aux fleurs, qui salue Dieu et qu'à Dieu qui fait naître les fleurs. Vous l'avez chargé de ce dépôt mortel, mais il est perdu, mon frère, ce pauvre cher Cornelius.
Perdu?
Oui, car il sera fort ou il sera faible. S'il est fort, car si étranger qu'il soit à ce qui nous arrive, car quoique enseveli à Dordrecht, quoique distrait que ses miracles, il saura un jour ou l'autre ce qui nous arrive, s'il est fort, il se vantera de nous. S'il est faible, il aura peur de notre intimité. S'il est fort, il criera le secret, s'il est faible, il le laissera prendre. Dans l'un et l'autre cas, Corneille, il est donc perdu, et nous aussi. Ainsi donc, mon frère, fouillons vite s'il est temps encore. Corneille se souleva de son lit et, prenant la main de son frère qui tressaillit au contact des linges, « Est-ce que je ne connais pas mon filleul, dit-il, est-ce que je n'ai pas appris à lire chaque pensée dans la tête de Van Baal, chaque sentiment dans son âme ? Tu me demandes s'il est faible, tu me demandes s'il est fort, il n'est ni l'un ni l'autre, mais qu'importe ce qu'il soit, le principal est qu'il gardera le secret, attendu que ce secret, il ne le connaît même pas. » Jean se retourna surpris. « Oh !» continua Corneille avec son doux sourire, « le regard de Pulton est un politique élevé à l'école de Jean. Je vous le répète, mon frère, Van Baal ignore la nature et la valeur de ce dépôt que je lui ai confié. « Vite alors !» s'écria Jean, « puisqu'il est temps encore, faisons-lui passer l'ordre de brûler la liasse. » « Et par qui faire passer cet ordre ?»« Par mon serviteur, Crac, qui devait nous accompagner à cheval et qui est entré avec moi dans la prison pour vous aider à descendre l'escalier. » « Réfléchissez avant de brûler ces titres glorieux, Jean. »« Je réfléchis qu'avant tout, mon brave Corneille, il faut que les frères de Witt sauvent leur vie pour sauver leur renommée. Nous morts, qui nous défendra, Corneille ? Qui nous aura seulement compris ? Vous croyez donc qu'ils nous tueraient s'ils trouvaient ces papiers ?» Jean, sans répondre à son frère, étendit la main vers le Buitenhof, d'où s'élançaient en ce moment des bouffées de clameurs féroces. « Oui, oui, dit Corneille, j'entends bien ces clameurs, mais ces clameurs, que disent-elles ? » Jean ouvrit la fenêtre. « Mort aux traîtres ! » criait la populace. « Entendez-vous maintenant, Corneille ? Et les traîtres, c'est nous ? » dit le prisonnier en levant les yeux au ciel et en haussant les épaules. « C'est nous, » répéta Jean de Witt. « Où est Crac ? » ?»« À la porte de votre chambre, je présume. Faites-le entrer, alors. » Jean ouvrit la porte. Le fidèle serviteur attendait, en effet, sur le seuil. « Venez, Crac, et retenez bien ce que mon frère va vous dire. »« Oh non, il ne suffit pas de dire, Jean, il faut que j'écrive, malheureusement. »« Et pourquoi cela ?»« Parce que Van Baal ne rendra pas ce dépôt ou ne le brûlera pas sans un ordre précis. »« Mais pourrez-vous écrire, mon cher ami ?» demanda Jean à l'aspect de ses pauvres mains toutes brûlées et toutes meurtries. « Oh, si j'avais plus mes encres, vous verriez, dit Corneille. Voici un crayon, au moins. »« Avez-vous du papier, car on ne m'a rien laissé ici. » Cette Bible, déchirez la première feuille. Bien, mais votre écriture sera illisible. Allons donc, dit Corneille en regardant son frère, ses doigts qui ont résisté aux mèches du bourreau, cette volonté qui a dompté la douleur, vont s'unir d'un commun effort et soyez tranquille, mon frère, la ligne sera tracée sans un seul tremblement. Et en effet, Corneille prit le crayon et écrivit. Alors on put voir sous le linge blanc transparaître les gouttes de sang que la pression des doigts sur le crayon chassait des chairs ouvertes. La sueur ruisselait des tempes du grand pensionnaire. Corneille écrivit « Cher filleul, brûle le dépôt que je t'ai confié, brûle-le sans le regarder, sans l'ouvrir, afin qu'il ne demeure inconnu à toi-même. Les secrets du genre de celui qu'il contient tuent les dépositaires. Brûle, et tu auras sauvé Jean et Corneille. Adieu, et aime-moi, Corneille de Witt, 20 août 1672. » Jean, les larmes aux yeux, essuya une goutte de ce noble sang qui avait taché la feuille, la remit à Crac avec une dernière recommandation et revint à Corneille que la souffrance venait de pâlir encore et qui semblait près de s'évanouir. « Maintenant, dit-il, quand ce brave Crac aura fait entendre son ancien sifflet de contremaître, c'est qu'il sera hors des groupes de l'autre côté du vivier. Alors nous partirons à notre tour. » 5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un long et vigoureux coup de sifflet perça de son roulement marin les dômes de feuillage noir des ormes et domina les clameurs du Buitenhof. Jean leva ses bras au ciel pour le remercier. « Et maintenant, dit-il, partons, Corneille. »